Bonjour, bienvenue sur La vie est un conte, un podcast qui vous aide à être pleinement acteur, actrice de votre vie. Je m'appelle Axel, je suis coach et praticienne narrative. Je vous livre ici, un mardi sur deux, un conte qui m'a inspirée. Quelques réflexions tirées de ce récit et un outil concret issu de ma pratique de coach pour vous permettre d'être davantage auteur, acteur et réalisateur de votre propre histoire. Abonnez-vous au podcast La vie est un conte sur la plateforme de votre choix pour être notifié des nouveaux épisodes. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue! Je souhaitais commencer cet épisode en remerciant Florence pour le message qu'elle m'a laissé sur lavieestuncompte.com. Florence m'écrit « Merci pour ces podcasts courts et utiles. J'aime beaucoup le lien que vous faites entre compte, notre quotidien et un outil de coaching que l'on peut immédiatement mettre en place. J'ai vraiment retenu la notion de cercle qui permet d'expliciter quelque chose que je faisais de manière intuitive. » C'est limpide pour faire prendre conscience du sujet à notre entourage. Merci et continuez. Florence. Un grand merci pour votre commentaire, Florence, qui m'a donné beaucoup d'énergie. Et je suis ravie que vous ayez pu mettre en pratique le cercle d'influence de Stephen Covey. Tous les outils que je propose dans ce podcast sont avant tout des outils que j'utilise moi-même et qui m'aident aussi. Je suis ravie de contribuer à leur diffusion. Bienvenue dans l'épisode 6 de La vie est un conte. Le conte que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule La force du bœuf et il est tiré du recueil Les philofables de Michel Pigmal. Il était une fois, deux fois, maintes fois, un homme qui avait un bœuf noir d'une force extraordinaire. Son voisin, qui en avait aussi un d'une grande force, aimait les paris. Un jour, au cours d'une foire, devant tous les badauds assemblés, il fit tirer à son bœuf un chariot porteur d'une énorme charge. Puis il s'écria « S'il existe un autre bœuf capable de tirer ce char, je donnerai 100 pièces d'or à son propriétaire. Mais s'il n'y parvient pas, j'empocherai les 100 pièces d'or. » Le propriétaire du bœuf noir releva aussitôt le défi. Il attela sa bête, puis lui cria « Allez, force ! Mais tire, fainéant ! Qu'attends-tu, sale bête ? Tire donc !» Mais le bœuf noir eut beau forcer et suer, il ne parvint pas à tirer la charge et l'homme perdit ses 100 pièces d'or. Quelque temps plus tard, le voisin, enhardi, réitéra son pari. « Cette fois, dit-il, j'offre 1000 pièces d'or !» Le bœuf noir dit alors à son maître « Relève le défi et je te gagnerai cette somme. »« Comment oses-tu ?» répliqua son maître, « toi qui m'as déjà fait perdre une fois ?» Mais le bœuf noir lui répondit « Devant une foule nombreuse, tu m'as insulté et humilié, me faisant perdre toute confiance. Encourage-moi et tu verras ce dont je suis capable. » Alors, le maître brossa son bœuf et orna ses cornes d'une couronne de fleurs. Et lorsqu'il l'attela, il lui prodigua 1000 encouragements. « Porte-moi chance, mon beau. Je sais que tu en as la force. Tire, mon ami, tire ce char comme un fétu de paille. » Et, à l'étonnement de tous, le bœuf noir emporta l'énorme charge jusqu'au sommet de la colline. Faut avoir confiance en les surprises de la vie. Jean-Philippe Blondel. À la lecture de ce conte, on peut se demander pourquoi le bœuf du protagoniste principal, qui a une force extraordinaire, ne réussit pas à déplacer le chariot la première fois. Il évoque lui-même, auprès de son maître, pour se justifier, une perte de confiance suite aux insultes et aux humiliations reçues de celui-ci. Il est connu qu'en situation de stress, certaines personnes perdent leurs moyens. Pensez par exemple aux élèves brillants qui angoissent tellement lors des examens qu'ils n'arrivent plus à se concentrer et qui en viennent à décrocher de justesse leur bac ou même parfois à le rater. Si on regarde d'un peu plus près ce qui se passe dans le cerveau à ce moment-là, lors d'un événement stressant, des neuromédiateurs inondent le cortex préfrontal, siège du raisonnement et de la prise de décision, et ils perturbent les connexions avec le reste du cerveau. Les structures cérébrales plus primitives prennent alors les commandes. Le cerveau passe en mode reptilien et peut à l'extrême décider d'une paralysie du corps associée à l'impossibilité de parler. Ce qu'on vient questionner, le lien entre le feedback du maître et le stress du bœuf. Et pour avoir un éclairage sur ce lien, les travaux de Vess, publiés dans Scientific America en 1972 sous le titre « Psychological Factors in Stress and Disease » peuvent être intéressants. L'expérience en fait consistait à mettre trois rats dans trois boîtes. Chaque rat est connecté par la queue à un générateur qui peut leur envoyer une décharge électrique. Dans la première boîte, le rat 1 peut bloquer les décharges électriques en actionnant une roue. Le rat 2, lui, n'a aucun contrôle sur les décharges électriques. En fait, il reçoit les mêmes que le rat 1. Ils sont reliés au même générateur. Et enfin, le troisième rat est un rat témoin. Et lui, il ne reçoit aucune décharge électrique. Il a cependant, lui aussi, la queue reliée à un générateur qui est inactif pour pouvoir isoler ce possible facteur de stress. Après chaque expérimentation, Weiss mesurait le niveau de stress de chaque rat. Premier constat, c'est que le rat 1, qui a un contrôle sur la situation, est moins stressé que le rat 2, qui n'a aucun contrôle. Ensuite, l'expérience est refaite en faisant précéder la décharge électrique d'un signal sonore pour le rat 1 et d'aucun signal pour le rat 2. Si bien que dès que le signal sonore est émis, le rat 1 fait vite tourner sa roue pour bloquer les décharges. Cette deuxième expérience montre que la prédictibilité de la situation diminue le stress. Dans une troisième expérience, et c'est celle-ci qui nous intéresse, Weiss s'est intéressé au rôle du feedback sur le stress. L'expérience reste la même, mais le signal sonore est accompagné d'une lumière allumée qui s'éteint quand le rat 1 fait tourner la roue. La lumière qui s'éteint est une rétroaction pertinente qui indique au rat qu'il se trouve maintenant dans une situation sécuritaire. C'est comme si cette lumière, qui s'éteint, était un feedback positif sur son action. Cette confirmation extérieure réduit sensiblement le stress du rat. A l'inverse, dans l'expérimentation suivante, la lumière s'éteint de manière aléatoire, même si le rat fait tourner la roue. Le chercheur parle alors d'un rétrocontrôle négatif qui augmente les effets du stress. Ainsi, le feedback du propriétaire du bœuf, si on revient à lui, quand la première fois son feedback est négatif, il augmente le stress de son bœuf qui en perd ses moyens. Et à l'inverse, son attention et son feedback positif du deuxième concours participent à décupler les forces du bœuf qui emporte le chariot jusqu'au sommet de la colline, c'est dire. Alors dans un conte, on ne s'étonne pas qu'un bœuf parle à son maître. Mais que se passerait-il dans la vraie vie quand un bœuf ne parle pas le langage des humains? Eh bien, nous pouvons supposer qu'il se serait passé exactement la même chose, grâce à une autre expérience faite dans les années 60, là encore sur des rats. Robert Rosenthal et Lenore Jacobson ont mené une expérience avec deux groupes d'étudiants pour étudier le comportement des rats dans un contexte d'apprentissage dans un labyrinthe. Le premier groupe s'est vu confier des rats que l'on a qualifiés de super intelligents, et le second de rats qualifiés de bêtes lents. Bien évidemment, il n'y avait aucune différence entre ces rats qui avaient été attribués aléatoirement. Le premier groupe pensait donc ces rats capables d'obtenir les meilleurs résultats dans ce labyrinthe, et les ont sans doute plus stimulés, encouragés. Le résultat est que, en effet, les rats du premier groupe ont eu de bien meilleurs résultats que les rats du second groupe. Quelques années plus tard, Rosenthal et Jacobson sont allés plus loin en reproduisant l'expérience sur des enfants. Alors, je vous explique le protocole, ça se passait bien sûr pas dans un labyrinthe. En 1964, ils sont allés dans une école primaire de San Francisco et ils ont fait passer des tests de QI à tous les élèves. Mais les notes ont été mises de façon aléatoire et largement surévaluées pour 20% d'entre eux. Les résultats ont été transmis, prétendument par accident, aux enseignants. Si bien que les enseignants savaient qui étaient les 20% d'élèves qui avaient le meilleur QI. À la fin de l'année scolaire, de nouveaux tests d'évaluation ont été faits auprès de ces mêmes élèves, et les 20% surévalués ont eu les meilleurs résultats. Les élèves avaient ainsi confirmé les fortes espérances placées sur eux par les enseignants. Rosenthal et Jacobson ont nommé cela l'effet Pygmalion. Ceci a été transposé en 1969 dans la sphère du management par G. Sterling Livingstone. La performance d'une personne est avant tout le reflet des attentes de ses supérieurs. La performance d'une personne est avant tout le reflet des attentes de ses supérieurs. Savoir cela nous donne une sacrée responsabilité, je trouve. Quel regard portons-nous sur notre entourage ? Comment notre regard permet aux autres de déployer leurs ailes ou au contraire les limite, les enferme? Comment voir derrière le verre à moitié vide, le verre à moitié plein? En pratique narrative, nous parlons de double écoute, savoir entendre le plein derrière le creux, savoir entendre l'action derrière la plainte, savoir entendre les valeurs derrière la souffrance exprimée. J'ai envie de vous proposer aujourd'hui un magnifique outil tiré du livre de Dina Scherer, La magie de la bienveillance, livre très intéressant que je vous recommande fortement, et qui s'appelle, cet outil, La fleur des qualités. L'intention est justement d'honorer le plein. C'est à faire en famille, avec vos enfants, avec vos frères et sœurs, avec vos parents ou même avec vos amis. Prenez autant de feuilles que vous avez de participants, et tracez sur celle-ci une grosse marguerite avec une dizaine de pétales. Écrivez au centre de la fleur le prénom du participant. Pliez en deux les feuilles et mélangez-les. Invitez une première personne à venir prendre une feuille. Cette personne devient scribe pour cette fleur. La personne dont le nom est inscrit va écouter les échanges sans réagir. On peut, pour respecter sa pudeur et la protéger davantage, lui proposer de tourner sa chaise afin d'être dos à nous. Chaque participant, à tour de rôle, énonce une qualité qu'il reconnaît chez cette personne. Le scribe les inscrit, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de qualité à énoncer et ou que tous les pétales ont été remplis. Puis le scribe remet la fleur à sa propriétaire et l'interroge. « Que penses-tu de ta fleur des qualités ?» Laquelle de tes qualités préfères-tu? Qu'est-ce que ça te fait d'entendre tous ces mots sur toi? Et dernière question très importante, est-ce qu'il y a une qualité sur laquelle tu veux poser une question, c'est-à-dire demander pourquoi il ou elle a dit ça? Cette dernière question est importante car parfois une personne est étonnée de certaines qualités qu'on lui envoie et elle a besoin, pour se l'approprier, de l'ancrer dans un exemple concret. Puis la personne choisit un autre papier et devient scribe à son tour. Maintenant, regardons côté entreprise, et cet outil est tout à fait transposable à l'entreprise dans un contexte de coaching d'équipe ou en séquence d'un séminaire. À la place de la fleur des qualités, je mettrai plutôt la fleur des valeurs ajoutées dans l'équipe. Le processus reste le même, la question est quelles sont les valeurs ajoutées de ce collaborateur dans notre équipe. Ensuite, les collaborateurs peuvent être invités à coller leurs fleurs au mur et de prendre collectivement un temps pour honorer ce qui est là. Et éventuellement se poser la question de la fleur manquante, du prochain recrutement par exemple, si c'est d'actualité. Puis, j'aurais envie de rajouter deux autres étapes. Une étape pourrait s'appeler le vase. Et ce serait de se poser collectivement la question du vase qui contient toutes ces fleurs, c'est-à-dire le cadre, les règles qu'on se donne pour fonctionner ensemble, les comportements observables que l'on souhaite voir. La question des règles dans une équipe est très importante. Quand posons-nous les règles avec l'équipe? Quand avez-vous, par exemple, pris le temps de poser ces règles? Et ce qui est important aussi pour moi, c'est de comprendre que ces règles sont biodégradables. Elles peuvent évoluer, c'est pas quelque chose qui est gravé dans le marbre. Mais en revanche, c'est vraiment important de se poser cette question et de le partager, de le rendre explicite. Trop souvent, les règles sont implicites et ça met un peu de flou dans les règles. Et une dernière étape pourrait s'appeler « Quelle eau mettons-nous dans ce vase ?» Et là, chacun peut déposer ses besoins pour que sa fleur vive longtemps et soit nourrie de cette eau. Il s'agit ici des besoins, des valeurs, des grands principes de vie du groupe. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et c'est avec grand plaisir que je vous retrouve dans 15 jours pour parler de la cave du silence et de l'art de l'écoute. Mais ça, c'est une autre histoire. La vie est un conte est un podcast indépendant. Une bonne façon de le soutenir est de le faire connaître autour de vous. En cadeau de cet épisode, je vous ai préparé un document avec le conte que vous avez écouté et l'outil de coaching formalisé. Pour le recevoir, rendez-vous sur lavieestunconte.com. À bientôt !